Radio Django. Vivre à Lausanne.
Fabio, en avril 2016, nous avions reçu deux membres du collectif Roverea qui avaient été choisis par la ville de Lausanne pour reprendre le domaine du même nom dans les hauts de la ville, précisément à la route d'Oron.
Oui, et nous avions appris que les projets du collectif allaient s'articuler autour de quatre piliers. L'agricole, par la production maraîchère biologique. Social, par un programme de réinsertion professionnelle. Un volet économique qui consiste à démontrer que les petites et moyennes exploitations agricoles ont un avenir. Et enfin, un volet essentiel pour cette ferme, qui est le volet pédagogique.
En effet, et puis depuis 1988, date du rachat de la ferme par la ville de Lausanne, la particularité de ce lieu réside dans le fait qu'en plus d'être une exploitation agricole classique, il a toujours proposé des activités pédagogiques pour les classes lausannoises.
Et quel enfant ayant fait ses écoles à Lausanne n'a pas encore en tête cette balade dans le monde agricole, en contact avec animaux et végétaux dans ce coin de paradis aux portes de Lausanne. Bonjour Élise Magnana.
Bonjour.
Tu fais partie du collectif qui a repris la ferme il y a une année à peu près et tu t'occupes plus particulièrement du volet socio-pédagogique de l'accueil du public à la ferme. Exactement. C'est en janvier 2016 qu'on vous annonce que vous pouvez disposer d'une surface de 1200 m2, waouh, pour y créer un jardin potager. Et ça tombe bien puisque un de vos objectifs était justement de créer un lieu d'exploitation agricole collective. Alors voilà, vous recevez ces 1200 m2, puis qu'est-ce qu'on y fait ? On achète une pelle et puis un râteau, puis on y va ?
Alors, pas tout à fait. En fait, on avait prévu que ce serait le potager pédagogique et on avait prévu de le faire en démarche participative. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les gens des quartiers voisins, en l'occurrence le quartier de Chailly et des Beauvresses, et on a fait deux soirées de présentation pour leur expliquer un peu quelles étaient nos intentions sur le projet global, mais également sur le projet du jardin, vu que c'était ça qui démarrait en premier. Donc on avait un immense enthousiasme à ce moment-là, on était juste à quelques mois après la sortie du film Demain, les gens nous voyaient et se disaient ça y est, demain c'est aujourd'hui à Lausanne, c'est super. C'était assez impressionnant en fait de faire face à cette, parce que c'est aussi rempli de demandes souvent, enfin, ou d'attentes en tout cas. Mais on ne s'est pas laissé trop démonter. Puis on a lancé un appel à l'APEL, l'Association Permaculture Estudiantine Lausannoise, pour nous aider à faire le design du jardin. Parce que la permaculture est une science ou une méthode de conception, donc de design. Et la première étape, c'était évidemment d'imaginer ce qu'on allait y mettre dans ce jardin, dans quel genre d'éléments, quels seraient les chemins, les accès, etc. Donc on a fait deux jours d'atelier d'intelligence collective avec l'appel pour créer ce design et une soirée de présentation après où on a en fait pris le public et leur dit voilà avec quoi on est arrivé au bout de deux jours. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ajoute ?
Mais le public avait déjà participé à cette première étape entre vous et l'appel ? Enfin, avec vous et l'appel ou c'était après que...
Non, c'était après parce qu'on ne l'avait pas vraiment fait avant. Du coup, maintenant, effectivement, on est en train de reprendre le processus et de le faire encore plus participatif pour la deuxième partie du design. Mais cette première partie, on s'est dit qu'il fallait qu'on commence quelque part, faire un design à 25, on ne va jamais s'en sortir. Donc, on était une petite dizaine, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Et puis, la soirée de présentation, il y avait passé 30 personnes qui sont venues nous donner des idées et compléter en fait, le design. Donc, on est plutôt que de partir avec une feuille blanche à 30, on est parti avec une première idée et on a complété avec les idées du public.
Mais on lit dans un petit bilan que vous avez déjà fait, d'ailleurs bravo, on est tout début janvier, puis les bilans de l'année passée sont déjà faits, c'est magnifique.
Il n'est pas sorti officiellement.
On prendra exemple sur vous et votre diligence. Mais on lit qu'il y a 200 bénévoles qui ont participé à la création de ce jardin. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu 200 personnes ?
Oui, alors ce n'est pas au niveau de la conception, c'est au niveau de la mise en place. Donc okay. Une fois qu'on avait ce design, on a lancé un appel pour faire des chantiers participatifs. Et on avait déjà annoncé aux maisons de quartier qu'on allait faire des jeux. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais on savait qu'on avait déjà des dates fixées où il y aurait des chantiers participatifs. Et du coup, suite à ça, on a fait un appel. Et là, on a eu une ruée absolue. Les gens se sont complètement emballés. On a eu 200 personnes au premier week-end sur trois jours, 150 le deuxième week-end. Et après, durant tout l'été, des gens qui sont venus jardiner. On l'avait appelé, sans trop le savoir, le jardin aux mille et une mains. Et en une année, on a probablement eu à peu près mille et une mains dans le jardin.
Et il y avait assez de pelles et de râteaux pour les mille et une mains?
Alors, c'était un peu la panique, justement. Ça a été un grand moment de solitude le jour où on a lancé en fait, les festivités. On a en fait créé un événement sur Facebook. Et en trois jours, on a eu 130 inscrits. Et on n'avait pas une pelle, pas un râteau, pas une brouette. Et du coup, ça a été un petit exercice de logistique. On a récupéré pas mal de matériel. On a eu la chance d'avoir la loterie romande qui nous a donné un peu de sous. On a juste acheté ce qu'on avait besoin en plus. Et puis, on a réussi à peu près. Mais c'est vrai que le premier chantier, les gens ils venaient avec leur fourche et puis leur pelle pour leur dîner.
Vous parlez de votre page Facebook. C'est l'unique vecteur que vous avez utilisé pour vous faire connaître?
À ce moment-là, ouais, parce qu'on avait... pas de site, on n'avait rien, on n'avait pas prévu, c'était vraiment... Donc à ce moment-là, c'était ça, et ça a été assez phénoménal, on a touché des gens qu'on n'imaginait pas du tout. Enfin, on a eu des gens de France voisine, de Fribourg, de Genève, donc c'est assez surprenant, ça. Après, on était aussi très conscients que c'est les gens des quartiers qui vont s'engager sur le long terme, donc on avait... pour nous, c'était important qu'on puisse aussi toucher ces gens. C'est pour ça qu'assez rapidement, on est revenu vers les gens des quartiers qu'on avait contactés avant pour leur dire « Vous n'êtes peut-être pas sur Facebook, mais c'est important pour nous que vous veniez. » Puis ça, effectivement, c'était utile et bénéfique, je pense.
Ouais. Et c'était qui ces personnes qui venaient? Tu parles de Fribourg, de Genève. Quel type de personnes? Amoureux de la nature ou parce qu'ils venaient aussi essayer de faire une expérience, voire de trouver des compétences pour faire ça ailleurs?
Ouais, un peu tout ça. Je pense qu'il y a pas je dirais pas qu'il y avait un profil type, vu qu'on a eu, il y avait beaucoup d'enfants. On avait clairement dit aux gens qu'ils pouvaient venir avec leur famille, enfin, qu'ils pouvaient venir en famille. Donc, on avait un peu tous les âges. Et puis, c'est beaucoup des gens, oui, qui viennent à la recherche d'une inspiration, d'une expérience collective. Et on a très vite dit aux gens, il y en avait beaucoup qui avaient jamais touché un râteau. Donc, on a très vite dit aux gens, on n'est pas dans une démarche de productivité. On essaye de faire, on verra ce qu'on arrive à faire. Mais allons-y, ayons du plaisir et de se rencontrer, etc. Et c'était finalement beaucoup pour ça que les gens venaient aussi. Et en même temps, on a fait une avance du diable parce qu'on a construit, créé des choses assez hallucinantes. Moi, je ne pensais pas qu'on arriverait à faire autant de choses et que le jardin aurait l'aspect qu'il a aujourd'hui.
D'accord. Ouais. Pas, tu dis, ce n'est pas une démarche productive, productiviste, mais en même temps, le jardin produit des choses.
Ouais, énormément. Ouais, alors effectivement, c'était pas vraiment la première question. En fait, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec plein de légumes sur les bras. Alors pendant de nombreuses semaines, rien, évidemment, puisqu'il fallait que ça pousse, puis que les bénévoles venaient un peu comme ça. Puis quand on a commencé à avoir des récoltes, ben c'était un peu la question de, parce que donc dans le projet de Reveret, il y a un volet agricole où il y a de la production agricole, où là on est dans une démarche commerciale où on fait de la production qui va être vendue.
Mais c'est pas le cas du jardin.
Mais c'est pas le cas du jardin. Et du coup, il a toujours été prévu qu'on partage ça avec les gens qui venaient travailler. Donc en fait, de fil en aiguille, quand on a commencé à faire les accueils hebdomadaires, on a proposé aux gens de repartir avec des légumes. Et au début, on les forçait à partir avec des légumes. Parce qu'en fait, c'est très suisse ce truc où on vient travailler, mais on n'ose pas trop prendre.
On prend surtout pas, oui.
Voilà, c'est ça, il ne faut pas déranger. Puis nous, on leur a dit, mais si vous ne prenez pas, à un moment donné, vous ne viendrez plus, parce qu'il n'y a plus d'échange. Quoi. Enfin, c'est juste unilatéral. Et puis au fait, du fil en aiguille, bah, après, ça a bien marché. Puis les gens prenaient, ils repartaient avec des sacs tout pleins, ils étaient tout contents. Nous, on était tout contents, on avait bien avancé au jardin. Puis ça marchait bien comme ça.
Puis j'imagine que les gens ne se connaissaient pas nécessairement, donc il devait y avoir des belles ambiances.
Ouais, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai un souvenir absolument génial où on a eu un groupe de musique klezmer qui est venu dans le jardin. On a appelé ça la valse potagère. Ils ont joué de la musique pendant qu'on était en train de... C'était complètement bucolique. On avait l'impression d'être dans un film d'Amélie Poulain ou quelque chose comme ça. Et c'était très sympa. Il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites. Il y a beaucoup de gens qui se voient maintenant en dehors du jardin et que tout d'un coup, je rencontre en train de boire un verre ailleurs. Et... Donc ça, c'était au niveau de la création du lien, ça a bien marché. Quoi. C'était vraiment chouette.
Est-ce que ça a été exporté ailleurs? Est-ce que tu as des exemples, par exemple?
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en nous disant « Ah, c'est génial, on aimerait faire quelque chose de similaire dans notre quartier, dans notre ville, dans notre village, etc. » Puis on leur a dit « Super, allez-y. » Enfin, évidemment, nous, on invite beaucoup les gens qui ont des projets similaires à venir voir ce qu'il y a au jardin, notamment pour des gens qui auraient peut-être des personnes à convaincre dans leur commune ou dans leurs associations, parce que des fois ça fait un peu peur, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On leur dit, mais venez leur montrer ce qui se passe au jardin pour reprendre ça chez vous. Enfin, il y a de la place pour des projets comme ça, puis pour nous c'est important que ça serve d'inspiration à d'autres.
Est-ce que le fait d'avoir un peu la ville qui est quelque part à Roveréa, est-ce que ça peut, pour des personnes qui vont présenter ça dans leur commune, ça peut avoir un effet plutôt positif, ou bien non, on s'en fout de ça?
Moi, je pense, oui, je pense. La ville n'a pas fait grand-chose dans la partie dans la partie jardin, à part mettre à disposition. Oui, ouais. Mais le fait qu'ils nous ont sélectionné et qu'ils ont accepté ça, bien sûr, ouais, je pense, effectivement. Ouais.
Alors, d'autres activités sont organisées en concordance, notamment avec le projet initial de votre collectif, et aussi en regard, comme on vient de le dire, avec les demandes de la ville, l'accueil des enfants.
Ouais.
C'est un des buts de Rovéréa.
Oui, c'était un des prérequis de la ville. Ouais.
Voilà. Et donc, les enfants, tu disais tout à l'heure qu'ils ont participé aussi un peu à la mise sur pied du jardin, mais aussi aux activités que vous avez développées par la suite.
Oui, alors à partir du mois d'août, on a commencé à accueillir des crèches tous les jeudis.
Donc des crèches des tout-petits-enfants.
Des tout-petits, 2 ans et demi, 5 ans. C'est vraiment minus à cet âge-là. Ils sont très choux. Et on fait une journée entière à la ferme avec eux. Ouais. Donc ils viennent, on fait la soupe au feu de bois, on va récolter les légumes. On est beaucoup dans quelque chose de très sensitif à cet âge-là. On ne va pas leur faire un cours magistral sur la plantation des carottes. On essaye, on goûte, on regarde. Mais ça marche super bien. Même maintenant, en hiver, ils continuent de venir sous la neige, voir comment ça évolue, comment la nature est en hiver, etc. On a aussi fait des accueils pendant les vacances dans le cadre des centres aérés urbains, avec la ville aussi. Là, c'est des plus grands, c'est des 6-12 ans à peu près. Donc ça change un peu de dynamique, mais on fait toujours la même chose. On fait de la soupe au feu de bois, mais on fait ça avec les adultes aussi. Quand il y a des visites, on fait de la soupe au feu de bois avec les adultes. Enfin, il y a vraiment un truc où finalement, on se rend compte que toutes les générations se retrouvent dans ces trucs assez basiques.
Donc là, on parle du côté très sensoriel pour les enfants, pour les éveiller un petit peu. Il y a un côté très pédagogique aussi pour les enfants plus grands, voire même pour les carrément adultes. Allons-y.
Bien sûr, ouais, c'est clair. Alors, on a commencé à... Enfin, on a initié le cycle d'initiation à la permaculture qui a lieu dans le cadre de Pôle Sud, il a lieu là en haut. Donc on a aussi des formations pour adultes là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'apprendre les techniques de permaculture, comment est-ce qu'on a fait tout ça, comment est-ce que ça se fait. Donc oui, il y aura une démarche l'année prochaine de rendre le jardin un peu plus didactique au niveau d'expliquer ce qu'il y a. Parce que des fois, on voit, on se balade, mais on ne sait pas trop pourquoi on a fait ça. On voit que c'est joli, mais on ne sait pas dans quel but. Donc ouais.
Pour revenir aux activités, un petit moment sur les activités avec les enfants, ça signifie que vous êtes en relation avec garderie, enfin avec le département des écoles.
Alors, ce n'est pas le département des écoles, du coup, c'est le service d'accueil de jour de l'enfance, ouais, pour les garderies, et puis le service de la jeunesse et des loisirs pour les centres aérés urbains, exactement, oui.
Donc, c'est en fait des classes qui sont accompagnées par
des éducatrices. Donc, il y a 9 centres de vie enfantine qui viennent. Ils viennent 4 fois dans la saison. Ils viennent, enfin, 4 fois dans l'année, donc une fois par saison. Et les 9 centres viennent après, en été, au printemps, en hiver, etc.
Donc, bilan positif pour 2016.
Oui, génial. Oui, ouais, assez... très enthousiaste. Et puis, il y a encore beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'espère que ça va durer.
Tu disais tout à l'heure, parce que moi, je me suis dit, Rovéréa, maintenant, ça croûte sous la neige. Il n'y a personne. Non.
Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, sous la neige.
Mais tu disais qu'il y a des gens qui sont maintenant, qui viennent voir un petit peu l'évolution du jardin l'hiver.
Alors, il y a les enfants qui viennent encore les jeudis. Les crèches viennent tous les jeudis. Et puis, on s'est lancé dans le design de la partie forêt comestible. Donc, qui est au fond du jardin. C'est tout un autre grand projet qu'on fait aussi en démarche participative avec des bénévoles. Et effectivement, on bosse. C'est un peu moins intense que cet été, mais on continue à bosser et à impliquer les gens dans cette démarche.
Et alors, quelle nouveauté pour 2017? Bon, tu viens de le dire, le jardin forêt, c'est ça?
Oui, le jardin forêt, clairement. Je pense qu'on va... Là, l'Assemblée générale de l'association, ça va être tout l'enjeu de dire pour qu'il y ait des nouveautés, pour qu'on puisse continuer à faire ça, c'est travailler sur la gouvernance, savoir qui a envie de prendre des projets, parce que c'est un lieu où beaucoup de projets peuvent avoir lieu, mais il faut des énergies pour ça. Donc on va faire un peu un bilan d'ici 2-3 semaines avec les membres de l'association et voir qui a envie de porter quel projet. Il y a notamment un projet de retaper, de construire une cuisine de transformation, une petite cuisine pour transformer les légumes du jardin. Et puis après, si on peut développer des formations, on peut développer des ateliers, on peut faire plus d'accueil. On fait un accueil hebdomadaire. S'il y a des gens qui ont envie, on peut en faire deux, mais il faut des gens pour ça, il faut des bras.
Ouais.
Donc, on attend de voir un peu quelle est l'énergie à disposition des membres de la SOS.
Bon, on peut venir pendant la journée, on peut dormir sur place. Est-ce que les enfants, par exemple, lors des camps, ils peuvent dormir sur place?
Non, ils ne peuvent pas dormir sur place, il n'y a pas de place. Mais cet été, on va faire des nuits à la Belle Étoile à côté de la ferme. Donc, on va faire ça avec les centres aérés urbains. On va prendre les enfants sur 2 jours et on va aller dormir dans la forêt juste à côté.
une question très, très large et peut-être un peu banale. On voit qu'il y a une grande éclosion d'initiatives collectives, mais aussi individuelles, qui œuvrent pour la transition écologique. Qu'est-ce que tu en penses?
Évidemment, ça me réjouit. Après, je pense que ça me réjouit d'autant plus quand c'est collectif, parce que je pense que c'est quand même par là que le changement va passer. Et puis, ben, de nouveau, j'espère vraiment qu'on fait face à une lame de fond et que ce n'est pas juste un phénomène de mode. Alors, j'ai envie de croire que non, je suis un peu idéaliste et je pense que ça va continuer comme ça.
De toute façon, vous avez un contrat avec cette ferme.
Nous, on est là pour 30 ans, là.
30 ans
ouais. Ah oui,
chopé pour 30 ans.
Ouais.
Donc, encore plein de beaux objectifs pour ces prochaines années, les 29 suivantes.
Exactement, c'est ça.
Merci beaucoup, Élise Magnina, membre du collectif de la ferme de Rovereda, d'être venue partager ce soir ce premier bilan de la première année d'exploitation de la ferme. On l'a appris, qui est plutôt très positif. Et puis, on a compris aussi que 2017 va être une année très dense chez vous à la Route d'Oron. On vous souhaite une très belle année avec l'éclosion de plein de beaux projets, tout comme toutes vos plantes que vous avez élevées. On peut dire aussi à nos auditeurs que l'association est ouverte à tous.
Tout à fait, oui. On peut s'inscrire depuis notre site internet.
Voilà, votre site internet, rovereda.ch.
Exactement.
Et on peut le faire aussi par mail avec un petit mail à info@rovereda.ch. Je rappelle aussi que vous pouvez réécouter la première émission que nous avions consacrée à la ferme de Rovereda. C'était l'année passée, le 13 avril, pour être précis. Mais on vous met le lien sur l'émission d'aujourd'hui. Merci, Fabio.